À part Montaigne, qui le premier et le seul écrivain penseur européen dénonça immédiatement au XVIe siècle la barbarie de la colonisation et son idéologie raciste couvrant sa cupidité et rendit hommage à la dignité des peuples conquis, à part peut-être aussi Descartes, pour qui le bon sens est la chose la mieux partagée entre tous les hommes, tout le discours que l'Occident produit, parallèlement à la traite esclavagiste et à la conquête coloniale, est chargé de justifier ces pratiques monstrueuses par le caractère spécifique des populations concernées. Ne prenons que l'exemple phare de Montesquieu, dans son œuvre maîtresse, L'Esprit des lois. Le pivot de cette œuvre est la théorie des climats, où les plus fantaisistes postulats sont présentés comme les évidences rationnelles et expérimentales d'une biopsychologie fantasmatique. L'homme du Nord est courageux, celui du Sud est timide. L'homme du Nord aime le travail, celui du Sud la paresse. Bien sûr, celui-ci est plus sensible, l'homme du Sud est plus sensible. Il se vautre donc dans toutes les voluptés sans aucune moralité. Les lois sont consécutives au climat. L'homme du Nord aspire à la liberté. Celui du Sud ne peut vivre que dans la servitude. On a là un noyau de préjugés qui, encore aujourd'hui, sont extrêmement vivaces. À côté de ceux du théoricien, les écrits du praticien que fut le fameux père là-bas sont encore plus explicites. On trouve chez lui une sorte de théologie du commerce qui efface tout sens de l'humain. Il expose les recettes pour optimiser, comme on dit, l'exploitation des esclaves aux Antilles. Il faut observer dans une cargaison de captifs de ne prendre que le tiers de femmes. Elles sont moins recherchées aux îles que les hommes. Et ailleurs, les enfants de 10 à 15 ans sont les meilleurs captifs que l'on puisse conduire à l'Amérique. Tout à fait explicite aussi la justification de la colonisation territoriale de l'Afrique pour exploiter les richesses immenses qui sont enfermées dans ce pays et qui demeurent presque inutiles dans les mains de ses habitants. Il ne manquait au père là-bas qu'une ombre de sens critique. Comment ne pas sourire en effet ? De l'entendre confier que on ne pèse point la gomme, il s'agit de la gomme arabique qu'on récoltait en Afrique, on ne pèse point la gomme, on la met dans une mesure cube appelée quintard, d'une grandeur dont on est convenu avec les morts et dont les Européens ont soin d'augmenter les capacités toutes les fois qu'ils en trouvent l'occasion. Et de conclure en affirmant que les morts sont voleurs de profession. C'est en vain qu'on y cherche des vertus morales, on n'en trouve point. Cet aveuglement de la bonne conscience marque les discours qui se développent au XIXe siècle. La critique des écrits de Gobineau reste à faire en France. Dans un style péremptoirement raisonneur, son fameux essai sur l'inégalité des races humaines exprime une idéologie simpliste qui est en fait une mystique. Élémentaire, viscérale, affectif, passionnel, tel apparaît Gobineau, bizarrement semblable au noir de ses descriptions ethnologiques. La puérilité de ses affirmations étonne. Les Européens sont les plus éminents par la beauté des formes et la vigueur du développement musculaire. Ce fatras a eu et a encore ses admirateurs. Après lui, on trouve chez Renan des développements délirants sur la classification des races. Le guerrier européen fait pour commander, l'ouvrier asiatique, les fameuses fourmis, le paysan africain. Citons enfin les postulats de Lévi-Brull sur la mentalité primitive qui passent pour des évidences aux yeux des intellectuels du début du XXe siècle. Il est remarquable en effet que ni Albert Londres ni André Gide, auteurs des fameuses protestations contre les actes de barbarie perpétrés aux colonies, protestations qui firent scandale à leur parution et qui furent d'ailleurs étouffés, ni l'un ni l'autre ne remettent en question les affirmations de Lévi-Brull. Si vives qu'elles soient, leur protestation est d'ordre purement humanitaire. Ils ne remettent pas en cause une hiérarchie qui va de soi. Gide, en 1927, découvre comment les colons français se procurent le caoutchouc, devenu précieux avec les pneumatiques de l'automobile, avec des méthodes d'une incroyable sauvagerie. Tout un village qui refusait de se plier à la corvée du ramassage forcé en brousse est exterminé. Les hommes exécutés, les femmes et les enfants enfermés et brûlés dans les cases. Albert Londres, en 1929, décrit l'effroyable nombre de morts que coûte la construction du chemin de fer Congo-Océan. Il y a certes la visée de l'exploitation, il y a aussi et surtout le mépris raciste. En France, ni l'histoire des idées, ni l'histoire des événements n'a été faite de façon critique. L'adjectif raciste, accolé à Renan ou à Montesquieu, soulève immanquablement un tollé de protestations offusquées qui résiste à toute analyse objective des textes. Aimé Césaire a fait une tentative critique dans son discours sur le colonialisme, œuvre magistrale et méconnue. Ce discours, qui fut au programme des classes de terminale L en 1994-1995, fit l'objet, le 12 septembre 1994, d'une question du député Alain Griotret au ministre de l'Éducation nationale, alors François Bayrou, disant qu'il s'étonne qu'une œuvre aussi résolument politique, osant comparer nazisme et colonialisme, soit inscrite au programme de français des terminales. Il trouve cette idée choquante et inacceptable. Du coup, Césaire, qui devait rester 2 ans au programme, disparut par un discret décret ministériel fin juillet 1995. Non seulement toute tentative critique est étouffée, dénoncée, discréditée, mais un flot d'œuvres médiocres, tant du point de vue de la pensée que de la forme, prétendant disculper une idéologie injustement mise en cause, sont portés au nu. On se souvient la guerre du sanglot de l'homme blanc de Pascal Bruckner, et on a aujourd'hui la négrologie de Stephen Smith, ramassis confus de clichés, portés au pinacle pour des raisons qui échappent manifestement à la rationalité. Ces discours sournois de légitimation du racisme à l'usage du grand public sont promus dans les médias. Par ailleurs, les élucubrations ouvertement racistes d'un Bernard Lugan sont exposées dans des conférences soi-disant sérieuses sur l'Afrique aux hautes études de la défense nationale. Comment, alors qu'une telle culture du racisme ne cesse de prospérer, comment les politiques les plus désastreuses ne seraient-elles pas mises en œuvre ?